C'est une plume acérée, parfois acerbe, qui asticote en tout cas avec malice les travers de notre société. Elle laisse souvent au lecteur un sourire accroché. Cette plume, c'est celle de l'écrivain et chroniqueur lausannois Quentin Mouron. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez éteint votre téléphone portable ?
Bien sûr.
Je préfère vous le demander hein, parce que dans le roman que vous venez nous présenter aujourd'hui, Vesoul, le 7 janvier 2015, le téléphone portable est une arme assez redoutable.
Pas seulement dans Vesoul le 7 janvier 2015, mais je crois aussi même jusqu'au studio de la RTS. Je crois que le portable est devenu une arme redoutable pour chacun, peut-être de manière métaphorique dans mon roman, de manière concrète dans la vie de tous les jours.
Il a quoi comme effet sur nous ? On parle, vous avez dit une arme, hein, c'est l'arme. Certains disent que c'est l'arme du 21e siècle. C'est quoi le problème finalement avec le portable ?
Je crois pas que c'est un problème, mais c'est le prolongement d'un membre. Hein, c'est pas seulement un membre qu'on utilise. C'est pas un godemiché qu'on utilise pour le plaisir. C'est pas un marteau qu'on utilise pour façonner un clou, je ne sais quoi. C'est une sorte de prolongement de la main, mais qui peut servir à peu près à tout. Non seulement à ce que je viens de dire, mais en plus à tout le reste. C'est-à-dire qu'on peut à peu près tout faire avec ce téléphone portable. Et c'est clair que à la fois ça peut être angoissant. C'est il y a quelque chose bien sûr de l'ordre de la domination en quelque sorte, hein, ou de on peut penser à des pirates, par exemple, des hackers. Et puis, en même temps, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'addiction. Et là, on peut penser, bien sûr, à une sorte de forme de toxicomanie, en quelque sorte. Donc, au fond, tout est possible avec cette arme. Et c'est vrai que je l'ai insérée. Pour moi, c'est une évidence. Si on écrit un roman au XXIe siècle qui se passe à l'époque contemporaine, ça me paraît difficile de faire sans téléphone portable. Je crois que dans le dernier Welbeck, il se retrouve sans Wi-Fi, sans connexion, très souvent, parce que je pense que Welbeck ne doit pas avoir de portable et il ne doit pas savoir comment ça fonctionne. Mais moi, malheureusement, je maîtrise ces codes-là. Donc ça me paraît normal de les intégrer à un roman.
Et dans votre roman, il se transforme en sabre laser, il flash les ennemis. Ce roman, justement, hein, vous le publiez chez Olivier Moratel, il y a Saint-Preux, hein, ce portable dont on parle, il appartient à Saint-Preux, c'est son prénom, c'est un gestionnaire de fortune de 30 ans qui roule en Audi M, se donner un air cool. Ils seront à un congrès à Vesoul en France et sur son chemin, il prend un autostoppeur qui fuit la Suisse parce qu'il refuse de se soumettre à la protection civile. Ça, c'est le début de votre roman. Vous avez essayé de l'écrire dans un style picaresque. C'est quoi un roman picaresque?
Oh, pour faire court, bref, le picaresque est né plus ou moins en Espagne au XVIe siècle, c'est-à-dire que il met en scène des personnages qui sont des déclassés, qui sont des gens en rupture avec le monde, qui sont des gens qui ont à souffrir de la société et qui sont extrêmement mobiles, qui se déplacent partout, hein, qui traversent les étendues, qui traversent les villes, les villages et qui sont vraiment des gens déclassés. Or, depuis le phénomène qu'on appelle la mondialisation, ceux qui sont classés justement hein, sont justement ceux qui sont les plus mobiles. Et ça, c'est quelque chose qui s'est inversé. Dans un système féodal où les terres sont réparties, où chacun a sa terre, en quelque sorte, celui qui est mobile, c'est le fou, c'est le louche, c'est l'ennemi, en quelque sorte, à qui se déplace, ou c'est l'idiot du village, c'est quelqu'un qui a justement aucun privilège. Or, dans une société mondialisée, celui qui peut se déplacer le plus facilement est bien sûr celui qui a le plus de pouvoir. Et j'ai voulu mettre en prise, sur le mode picaresque, cette lutte entre ceux, justement, qui ont le pouvoir, qui sont mobiles, qui peuvent se déplacer, et ceux qui sont privés du mouvement, ceux qui sont bloqués, dont on entend les résonances aujourd'hui en France, avec notamment le mouvement des Gilets jaunes.
Ah, justement, c'est bien que vous en parliez, parce que j'avais mis cette question beaucoup plus loin dans cette interview, mais il y a une scène dans votre livre, parce qu'il leur arrive tout un tas de choses. Hein, ils se retrouvent dans différentes manifestations, on va parfois dans l'absurde et le grotesque, ils se retrouvent face à des nains, face à des antispécistes, etc. Et ils se posent la question, ils disent, mais c'est marrant, toutes ces manifestations, qu'est-ce qui se passe à Vesoul? Et puis je me suis dit, bon, Vesoul, vous l'avez expliqué dans différentes interviews, vous l'avez dit, voilà, c'est une ville dont le nom évoque quelque chose, donc finalement ça aurait pu être n'importe où, mais franchement, ça n'aurait pas pu être n'importe où, à part la France. On se dit que ça peut se passer qu'en France, ça. D'ailleurs, ils ont une journée à Vesoul où ils ont le droit de tout dire, hein. C'est la journée, ça s'appelle la rue Quétanou.
Oui,
ça fait penser au grand débat de Macron actuellement.
Oui, la France est un terrain privilégié parce qu'au fond, les Français souffrent ni plus ni moins que le reste des Européens, mais ils osent le dire et c'est la différence. Hein. On dit toujours, avec cette francophobie qui nous qualifie parfois en Suisse, que les Français sont des râleurs, mais au fond, ce ne sont pas vraiment des râleurs, ce sont simplement des gens qui refusent que les Danois et les Allemands ont déjà accepté depuis plusieurs années, c'est-à-dire une précarisation, une paupérisation aussi, une baisse du pouvoir d'achat, la demande de travailler plus pour gagner moins, pour paraphraser Sarkozy. Donc au fond, ce qu'on voit sous nos yeux en France, c'est vrai qu'on le on le constate parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a des flashballs, parce qu'il y a des gaz lacrymogènes. Les Allemands et les Danois, les Hollandais, sans doute, aujourd'hui, regrettent un peu de ne pas s'être insurgés davantage.
Mais il y a toutes ces questions de débat, hein, ce grand débat qu'organise Macron maintenant, qu'on peut lire aussi dans votre livre, parce qu'effectivement, ça fait penser à ça. Pourtant, ce livre, vous l'avez écrit avant. Ça, c'est très français quand même.
Oui, et puis bon, si je faisais pas un peu d'anticipation, je serais pas un bon romancier. Donc, à mon sens, bien sûr, on retrouve, c'est-à-dire que c'est aussi la dévalorisation de la parole, en quelque sorte, parce que tout le monde a le droit de tout dire, en quelque sorte, pendant des journées, des espaces consacrés, donc bien sûr, c'est toujours maîtrisé par l'État, et puis, on s'échange des quolibets, des insultes, on se tape un peu sur la gueule, c'est un peu ce qui se passe exactement avec le débat voulu par Macron, et puis... Au final, bah, il reste quoi ? Il reste un peu de poussière, on attend que celle-ci retombe, et puis finalement, on oublie tout et on recommence.
Effectivement, vous l'avez dit, hein, vous vouliez être quand même dans l'actualité, hein, c'est le rôle aussi d'un bon écrivain, anticiper les antispécistes, parce qu'ils en rencontrent aussi, et votre narrateur dit, bon, ils étaient à gauche avant, maintenant ils sont pas loin de l'extrême droite, et en fait, dans le fond, ils sont dans le nihilisme, la négation de l'être humain, la haine de l'homme, vous allez assez loin quand même avec les antispécistes.
Non, pas particulièrement. C'est une hypothèse de lecture. C'est une hypothèse qui est prise à charge par un narrateur interne. Donc, c'est pas non plus forcément mon hypothèse. D'ailleurs, dans le tome 2, je me moque également aussi des mangeurs de saucisses qu'on a pu voir devant Suisse Expo. Donc, au fond, ce sont des comportements qui me semblent assez ridicules, l'un ou l'autre. Donc, au fond, j'essaye je crée une parenthèse, une hypothèse de lecture sur, notamment sur l'antispécisme, sur le véganisme, ainsi que sur d'autres, un certain nombre de sujets de société. Et puis ensuite, je regarde comment ça réagit dans la bouche des personnages. Il faut bien voir qu'aussi, cette scène a lieu pendant un espèce d'affrontement où il y a le Hezbollah, il y a des nains, tout le monde se tire dessus. Donc on est de toute façon dans une scène violente. Et dans les scènes violentes, bien sûr, que les mots sont également violents. Sinon, ça perdrait son sens.
On vous sent assez excité en fait à raconter cette histoire. Et c'est vrai, quand on le lit, on ressent la même chose. Franchement, vous êtes amusé à partir comme ça dans des choses assez absurdes. On est loin de la littérature assez classique et très réaliste. Dernier mot.
Oui, c'est-à-dire que c'est la continuation de Balzac par d'autres moyens. On parle de son temps, mais en utilisant des moyens différents. Moi, je suis un grand fan de Balzac, mais j'ai pas envie de refaire Balzac. Par conséquent, je sais pas si je me suis amusé, parce que c'était 4 ans de travail, c'est le livre sur lequel j'ai le plus travaillé. Il a fallu trouver le ton, la voix. Mais finalement, oui, maintenant que j'ai trouvé le rythme de croisière, je vais pouvoir écrire les deux tomes suivants avec, je l'espère, un peu d'amusement.
Oui, parce qu'effectivement, c'est une trilogie. En tout cas, il y en aura deux, ça c'est certain. Dernière question, vous avez peur de vieillir, Quentin Mouron ? Parce que dans le livre, le narrateur raconte que ses amis, avec l'âge, deviennent ennuyeux. Ils fêtent leur anniversaire au restaurant, ils ont les animaux domestiques, ils ont des enfants, ils aiment faire des brunchs. Vous, ça vous fait peur de vieillir ? Vous avez 29
oui.
ans.
Oui, mais mes amis sont déjà chiants, mais moi j'ai acheté une crème anti-rides, donc ça ira.
Quentin Mouron, Vesoul, le 7 janvier 2015, c'est le titre de votre tout nouveau roman. Et vous l'avez dit, il y aura une suite, un tome 2, peut-être même un tome 3. Il vient de sortir aux éditions Olivier Moratel. Merci d'être venu en direct dans cette émission. Je vous souhaite une bonne journée.
À vous aussi.